C'est l'heure de l'émission Dialogue entre Congolais avec Alain Gong.
Bonsoir. Célébration le 1er mai dernier de la Journée internationale du travail. Les syndicalistes à travers le pays ont plaidé pour l'amélioration des conditions socio-professionnelles des travailleurs. Comment analyser les revendications des travailleurs? Que faire pour améliorer leurs conditions socio-professionnelles? Pour en parler, nous recevons Monsieur le ministre Moussa Kalema, ministre intérimaire de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. Monsieur le ministre, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonsoir.
Jean Bosco Founa, secrétaire général du syndicat des écoles conventionnées catholiques et porte-parole adjoint des syndicats indépendants de l'administration publique. Monsieur Founa, bonsoir. Alain Poutou, expert en ressources humaines et spécialiste en insertion professionnelle des jeunes diplômés. Monsieur Poutou, bonsoir.
Bonsoir, messieurs les journalistes.
Merci à vous, chers auditeurs et internautes, qui êtes très nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Malik Kinkobo de l'Ikatio Katanga. La situation dans le secteur de l'emploi congolais est vraiment déplorable. Considérez seulement la situation de la SNCC à l'Ikatio. Les travailleurs sont surnommés immortels parce qu'ils arrivent à vivre avec plus de 60 mois d'arriéré. C'est Pélis Tungi de Kisangani en province orientale. Je me demande pourquoi l'augmentation de salaire des membres du gouvernement, tant national que provincial, des députés, sénateurs et ADG ne posent pas problème, mais pour les fonctionnaires, il faut l'intervention de Dieu. Bienvenue à tous dans votre émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081-890-66-68 ou nous écrire par SMS au 081-051-57-78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiocapi.net.
Vous le savez, le 1er mai de chaque année, l'humanité célèbre la Journée internationale du travail. À travers le monde, des manifestations ont été organisées à cet effet. La RDC n'était pas en reste à Kinshasa, à Kindu, à Mbujimayi, à Mbandaka. Bref, dans toutes les grandes villes du pays, des défilés ont sanctionné cette journée. À Kisangani, en province orientale, un défilé des travailleurs était organisé à l'esplanade de l'hôtel de poste en présence de l'autorité provinciale ainsi que les autres autorités politico-administratives et le chef de bureau de la MONUSCO. Occasion pour le président de l'intersyndicale de dénoncer lors de son allocution les difficultés que connaissent les travailleurs, notamment la fonction publique. Le reportage d'Orcas Cancou.
Le défilé a duré un peu moins de deux heures. Des centaines de travailleurs, la plupart en tissu imprimé au motif de la journée de travail, ont participé à cette cérémonie. Il y avait des agents de la fonction publique, des entreprises publiques et privées, et même des conducteurs de motos et taxis. Bien avant le défilé, le président de l'intersyndicale a saisi l'opportunité pour dénoncer les difficultés connues par les travailleurs, notamment ceux de la fonction publique où le travail se fait dans des conditions déplorables, a-t-il souligné. Jacques Nebois et Longo.
À la fonction publique, pour le gouvernement, c'était assigné la mission de créer des emplois décents. Nous observons que presque tous les bureaux métalliques, armoires, étagères et même certains imprimés utilisés par les divisions provinciales datent de l'époque coloniale. Ces matériels tyranniques qui devaient normalement contribuer à la pétrisation des fonctionnaires sont devenus paradoxalement la source des maladies professionnelles. L'administration publique, la cheville ouvrière de l'État congolais, est totalement abandonnée. Les directeurs des provinces, les chefs de division ne disposent même pas de bicyclette pour se rendre à leur poste du travail.
Cette journée de fête est également l'occasion pour interpeller le pouvoir public, le patronat et la masse ouvrière, a souligné le président de l'intersyndicale. Kisangani, Dorcas Kankou, Radio Okapi.
Merci Dorcas Kankou, monsieur le ministre Moussa Kalema. Je rappelle que vous êtes un ministre intérimaire de l'emploi, travail et prévoyance sociale. Commençons le bal, ouvrons le bal par ces deux auditeurs, Lambert Ngeleka de Mbujimayi au Café Oriental. Le 1er mai est une fête internationale que les travailleurs congolais fêtent impayés et même forcés de défiler par leur structure. Inutile que cette fête soit commémorée au Congo car elle demeure une distraction et une moquerie. Mwango Augustin de Kalima au Maniema, je ne comprends même pas pourquoi célébrer la Journée internationale du travail dans notre pays où le chômage bat le record. Monsieur le ministre, pensez-vous que les travailleurs congolais devraient être fiers de célébrer cette journée?
Effectivement, Je crois que le problème n'est pas d'être fier ou de ne pas être fier. Le problème est que c'est une journée internationale. Nous devons tous ensemble nous associer à ces grands gens, effectivement, pour parler, pour faire un tablier, pour évaluer si effectivement le travail est en train d'être fait comme ça se fait à travers le monde. Donc, je crois que ce n'est pas question d'être fier ou de ne pas être fier. Mais moi, je pense que c'était un moment important. Parce que c'est un moment où les travailleurs s'expriment et en retournant et en faisant des tout le monde. Et je crois que c'est critique que nous puissions maintenir cette date et nous puissions la célébrer.
Un autre auditeur, Robert de Bucavo, souhaitez-vous, les revendications des syndicats des travailleurs sont tout à fait fondées, légitimes. Cependant, je doute fort que le gouvernement y réponde de manière satisfaisante, n'ayant jamais été animé par le souci ou la volonté politique de matérialiser les vœux de ceux qui revendiquent ceci ou cela. Dans le secteur public, on vous dit en est une illustration et en privé, l'application correcte du SMIG. Monsieur le ministre, les gouvernements se sont succédés, mais apparemment les conditions des travailleurs sont restés les mêmes. Quel état des lieux vous voudrez faire des conditions des travailleurs congolais?
Certains, ils ont raison sur toute la ligne. Nous disons que la situation de nos travailleurs n'est pas décente. Nous reconnaissons qu'il y a beaucoup de problèmes dans l'administration, comme dans d'ailleurs tous les secteurs, même dans les secteurs privés, il y a des problèmes. Et je te dirais qu'il y a beaucoup de problèmes qui doivent nécessairement trouver solution par le gouvernement. Mais parce que avec elle, le rôle des gouvernements, c'est justement de trouver des solutions. Il y a beaucoup de gouvernements qui se sont succédés, mais il faut comprendre aussi dans quelles conditions ces gouvernements ont travaillé. Mais j'aimerais rappeler ici que, en ce qui nous concerne, nous avons pris après les corps les problèmes de nos fonctionnaires, de nos travailleurs, et c'est une grande préoccupation. Et j'estime qu'aujourd'hui, les choses commencent à changer parce que tout le monde essaie d'apporter un regard exceptionnel lorsque je vois des relations pendant au moins l'état que je fais l'interview. Vous savez, lorsqu'on est ministre dans ce pays, on n'assume pas véritablement le pouvoir, mais lorsqu'on est ministre, à ce moment-là, on est véritablement responsable, on assume. Et moi, j'ai assumé ce pouvoir pendant au moins un mois et demi, et j'ai compris, je crois que tout le monde peut le dire, que le gouvernement dans lequel j'ai participé était animé d'une détermination farouche à faire changer les choses. En dessous de ce qu'est, nous étions dans une situation d'exception. Donc, aujourd'hui, je te dis que des directives très claires ont été données par le chef de l'État pour que les choses changent au niveau de l'administration, au niveau de la fonction publique, au niveau de tous les ministères. Et maintenant, ça dépend des animateurs, bien entendu. Je crois que la ligne politique est claire, la volonté politique est exprimée, mais là, il faudra trouver des bons animateurs, des personnes qui maîtrisent effectivement ce domaine pour faire exécuter la volonté politique du chef de l'État. Et donc, nos amis qui disent qu'effectivement les conditions ne sont pas bonnes, ils ont raison, mais nous devons travailler, c'est ça notre rôle, c'est ça notre travail, et le Parlement également doit exercer son contrôle sur le gouvernement de manière que tous ces ministres qui ne traduisent pas en pratique, n'est-ce pas, les apports de notre peuple, soient interpellés. C'est ensemble que nous pourrons les faire bouger. Voilà.
Alors, Monsieur le Ministre, vous êtes d'accord avec les auditeurs que les conditions socio-professionnelles des travailleurs congolais ne sont pas décentes. Vous dites qu'il y a des directives claires du chef de l'État et que les choses commencent à changer. Je pense que c'est une question qui intéresse les auditeurs qui nous suivent. Qu'est-ce qui a changé? Quelles sont ces directives du chef de l'État?
Premièrement, je crois qu'il faut d'abord revaloriser ces emplois, ces travail-là, les rendre décents et créer les conditions idoines, les conditions de travail qui respectent la législation. Vous savez, tous les problèmes que nous avons dans ce pays, c'est le non-respect de la législation du travail d'abord. Et les travailleurs, et les fonctionnaires, et même, en fait, ceux qui sont appelés à se respecter ces lois, à un certain moment, avait démissionné de la responsabilité. Et maintenant, le chef d'État nous dit qu'il faut appliquer rigoureusement la législation en matière de travail. Par exemple, j'aimerais vous dire, j'ai parlé de ça d'ailleurs le 28, lors de mon message de la Nation, le 28, en ce qui concerne la sécurité et la santé au travail. Si vous allez aujourd'hui dans beaucoup d'entreprises, vous trouvez des gens qui sont en train de travailler sans respecter les normes sanitaires. Vous arrivez dans un endroit où, par exemple, on fabrique de la poisson, où on fait des histoires qui sont toxiques, mais les gens n'ont pas de masque. vous allez tout de suite en prétention de faire la route. Vous verrez que les gens qui sont en train de travailler, en fait, plus de la poussière, ils travaillent sans masque. Et maintenant, les chefs d'État, qu'est-ce qu'ils disent? Écoutez, il faut faire respecter les normes. Il faut faire respecter les règles. Et il faut faire travailler véritablement les inspecteurs du travail qui doivent faire respecter le travail. C'est dans ces cas-là, d'ailleurs, qu'on a commencé l'assainissement et le recrutement des nouveaux inspecteurs qui doivent être formés pour suivre. Parce que c'est dans vos dire qu'aujourd'hui, dans un pays comme le nôtre, il y a une carence inconsidérée des inspecteurs du travail. Et ceux qui sont là ne sont même pas formés, la plupart. Comment voulez-vous que l'administration du travail soit respectée? Et donc, et les travailleurs, et les employeurs, personne ne respecte l'administration du travail. Et en plus, il y avait de l'impunité au niveau du gouvernement central. Et même au niveau du gouvernement provincial. C'est pourquoi nous disons aujourd'hui, les chefs dit, mettons le paix fin à l'impunité, commençons véritablement à faire respecter l'administration du travail. Si on fait respecter l'administration du travail, c'est que tout le monde va s'aligner. Celui qui n'aura pas respecté les conditions du travail sera sanctionné. Si on dit qu'il faut travailler pendant 8 heures, il faut que les gens travaillent pendant 8 heures. Monsieur le ministre, il faut que les gens travaillent pendant 9 heures et sans être pressant d'avoir des heures supplémentaires. Voilà. Je vous dis, la première des choses, la première instruction que nous avons eue, c'est de faire respecter les conditions du travail et de faire les minimums, plus que pour la propreté. Comme l'a dit un de nos intervenants. Quand vous arrivez à la fonction publique, même le ministère du Travail ne le suit. Où j'ai servi, ça fait d'ailleurs, je crois, 6 mois. J'ai gagné ce bâtiment, ça fait aujourd'hui 2 mois et demi. C'est la classe.
Merci.
C'est pas normal. J'ai eu des discussions, j'ai eu des entretiens, j'ai eu même des séances de travail avec les inspecteurs, avec les secrétaires d'ordre pour leur dire on ne peut pas continuer comme ça. Et c'est pour être toujours au bord de mort au niveau du ministère de l'Emploi. Et donc, c'est dire qu'il y a une prise de conscience, on nous dit qu'ils ont respecté la législation.
Merci, monsieur le ministre.
Voilà.
Merci, monsieur le ministre. On vous garde encore tout au long de cette émission. Jean Bosco Pouna, vous êtes secrétaire général du syndicat des écoles conventionnées catholiques et porte-parole adjoint des syndicats indépendants de l'administration publique. Comment vous avez célébré cette journée du 1er mai?
Oui, merci beaucoup. Il faut dire que monsieur le ministre est honnête. Lorsqu'il peint les tableaux qu'il venait de peindre tout à l'heure, cela démontre exactement que l'emploi en République démocratique du Congo pose de véritables problèmes et c'est bien pour lui de les reconnaître. Comment nous avons célébré la journée du 1er mai? Eh bien, il faut dire que nous avons passé cette journée dans la tristesse la plus profonde, dans la mesure où il ne faut pas oublier que tous ceux-là qui ont pris part au défilé n'avaient pas encore touché leur salaire. Donc, vous comprenez, il y a un auditeur qui a parlé du défilé qu'on impose aux travailleurs, et ça c'est tout à fait vrai. Et nous, au niveau de l'administration publique, d'ailleurs, nous avons lancé un deuil de 40 jours qui commence à partir du 1er mai jusqu'au 12 juin.
Pour pleurer qui ou quoi?
Oui, c'est une manière pour nous de pouvoir exprimer notre mécontentement. Et le 12 juin, eh bien, nous serons à la place Golgotha pour pouvoir tenir notre grande assemblée générale. Donc, je veux simplement dire que la situation des travailleurs, des agents et fonctionnaires de l'État en République démocratique du Congo reste alarmante. Lorsque vous voyez les gens qui ont défilé, il faut peut-être revenir aux missions des syndicats. Les syndicats ont pour rôle de représenter les aspirations des travailleurs. Les syndicats doivent défendre les intérêts sociaux professionnels des travailleurs, mais également les syndicats doivent assurer l'éducation ouvrière à ces agents. Et donc, si les syndicats jouent bien son rôle, les agents, les travailleurs seront bien informés parce qu'au-delà du folklore auquel nous assistons lors de cette commémoration, eh bien, il est important de faire passer le vrai message à l'employeur afin que l'employeur comprenne effectivement les problèmes des travailleurs et mette des batteries pour résoudre ces problèmes-là. Ça fait beaucoup d'années que nous sommes dans la même situation. Vous allez vous rappeler, en 2004, eh bien, on signait l'accord d'Mboudi. On avait promulgué le SMIG, mais de tous ces accords, eh bien, rien n'a été respecté. Nous pensons que le nouveau gouvernement va devoir mettre mettre tout en œuvre pour que finalement les travailleurs puissent se retrouver. Parce qu'on ne peut pas continuer à vivre dans ces conditions infrahumaines. Les ministres viennent de reconnaître qu'au-delà des conditions socio-professionnelles, nous avons également des conditions de travail. Dans quelles conditions les agents travaillent? Dans quelles conditions? Quelles sont les salles? Vous allez trouver des agents en train de travailler dans des salles à peine aérées, à peine éclairées. Et donc, ils vont au travail justement pour sortir avec des maladies. Lui qui n'est pas payé, lui qui n'a pas de pension de retraite, vous comprenez que c'est de l'exploitation pure et simple et le gouvernement doit tout faire pour repenser la situation.
Il y a, en parlant des conditions socio-professionnelles, cet auditeur Gérard Kazingoufou de Benio Nord-Kivu qui dit « Comment peut-on comprendre le paradoxe de la revendication des syndicalistes sur les conditions socio-professionnelles malsaines pendant qu'il n'y a pas de démission, surtout dans la fonction publique? Est-ce par patriotisme ou tout simplement on s'auto-paye aux dépens du trésor public et les gouvernements congolais en profitent depuis toujours pour faire la sourde oreille dans votre commun ?»
Oui, merci beaucoup, mais vous savez, que l'emploi en République démocratique du Congo est caractérisé par quoi? Eh bien, vous avez les sous-emplois, mais vous avez de l'autre côté les chômages. Donc, vous voyez que lorsqu'on parle de la démission, d'une part, je peux donner raison à l'auditeur quand il parle du patriotisme, mais il est vrai, pour démissionner, il faut absolument que vous trouviez un palliatif. Lorsque le gouvernement n'est pas capable de garantir les droits au travail, les droits à une rémunération décente, nous pensons effectivement que c'est le gouvernement qui est en train de pécher parce qu'il revient au gouvernement de pouvoir assurer à celui qui travaille une rémunération qui lui permet à pouvoir vivre lui et ses membres de famille, ce qui n'est pas le cas dans notre pays. Et la République démocratique du Congo est l'un des rares pays africains membres de l'OIT, donc des Nations Unies, membre de l'Organisation Internationale du Travail, qui a ratifié différentes conventions, mais malheureusement qui n'a pas ratifié la convention 122 sur la politique nationale de l'emploi. Dès lors que nous n'avons pas une vraie politique nationale de l'emploi, eh bien les travailleurs, les agents ne peuvent être que sous les pieds. Il faudrait absolument qu'on parte de là pour que nous puissions sortir du bourbier. Mais il n'y a pas de politique rationnelle nationale de l'emploi et voyez-vous, les travailleurs sont dans cette situation tragique.
Toujours encore dans le même sens, Matumaini Franklin de Bukavu Sud-Kivu, le Congolais a développé la mentalité du gain facile. Il est vrai que le pourcentage des Congolais qui n'ont pas d'emploi est élevé, aussi le peu de travailleurs qui existent devraient s'interroger sur leurs prestations, car combien d'entre eux totalisent les heures de service telles que préconisées par la législation congolaise en matière de travail? L'image qu'affiche le service de l'État est vraiment inquiétante et demande des réformes profondes. Que faut-il attendre des agents et fonctionnaires de l'État qui arrivent au service à 10 heures pour repartir à 12 heures?
Oui, mais que faut-il attendre des agents complètement démotivés? Un agent démotivé, eh bien, il survit. Donc, vous comprenez qu'il faut absolument que l'État puisse prendre les choses en main. Même si nous ne pouvons pas innocenter les travailleurs, l'agent de l'État, nous, en tant que syndicat, nous faisons notre travail. Nous interpellons les travailleurs, bien sûr, à travailler. Mais le travail, dit-on, c'est à la fois un droit et un devoir. En tant que devoir, l'agent doit faire son travail. Mais en tant que droit, eh bien, l'agent doit bénéficier du salaire. Vous savez, on dit à travail égal, salaire égal. Mais bon, lorsque le travail n'est pas proportionnel au salaire, à la rémunération, et voilà toute la démotivation. Aujourd'hui, il est difficile de condamner un agent qui ne fait pas son travail au maximum parce que nous savons que le travailleur est complètement démotivé. L'autre dimension du travail, c'est la morale. Mais lorsque déjà les travailleurs, l'agent est codifié, la dimension spirituelle du travail disparaît. Et là, c'est dans pour notre nation.
Alain Poutou, vous êtes expert en ressources humaines et spécialiste en insertion professionnelle des jeunes diplômés. D'après le DCRP, le taux de chômage est estimé à 96% en RDC. Lorsqu'on prend en compte le secteur professionnel, faudrait-il vraiment s'interroger sur cette question?
Merci beaucoup. Moi, je crois que tout est mal parti déjà au niveau du recrutement des agents de l'État. Si vous observez très bien, vous verrez que chez les multinationales évoluent très bien parce que chez les multinationales, c'est la gestion axée sur les résultats. C'est-à-dire, lorsqu'on recrute quelqu'un au début, on doit pouvoir les mettre dans des bonnes conditions de travail. Vous verrez que dans les privés, il y a des beaux bureaux, il y a des bureaux équipés, des toilettes propres, et après, on vous fixe des objectifs. Même quand on vous remet un contrat de travail, on vous donne aussi des termes de référence à respecter. Avant même de commencer le travail, on va vous faire lire les manuels des procédures de gestion. Chaque jour, on suit des procès que vous êtes en train de faire. Et après une période de 3, 6 mois, 12 mois, on va quand même vous évaluer. Et dès que vous vous comportez en dehors de leurs procédures, on vous met directement dehors. C'est ce que l'État ne fait pas. Vous allez constater que le recrutement même des agents de l'État ne respecte pas les normes des ressources humaines. Vous allez voir, c'est un entre eux, ne respectent même pas d'ailleurs les procédures, ils ne sont pas bien payés bien sûr, mais il faut que ces gens-là aussi respectent les termes de référence. Je pense que l'État devait mettre à leur disposition les manuels des procédures. Dites-moi la personne, qu'est-ce que vous attendez de lui, et lui proposer aussi quand même un bon salaire. Moi je crois que ceux qui ont dit là, c'est vrai, les auditeurs ont raison, parce que moi je comprends même l'État par son système de recrutement. Le fait que au début, il n'y a pas un terrain d'attente entre la personne qu'on est en train de recruter et l'État aussi qui recrute la personne, donc vous voyez que tout ça, ça s'est créé par rapport au mauvais système de recrutement. Dès le début, il devait commencer par fixer à l'agent les termes de référence. Vous devez avoir un manuel de procédure, mais vous allez dans le bureau de l'État, il n'y a même pas un manuel de procédure. Les gens font des choses telles qu'ils veulent. Certains viennent au travail à 11h, à partir de 12h, ils partent. Certains sont même à la maison, ils téléphonent, si on a payé, ils apparaissent. Donc c'est un peu un système que l'État lui-même a encouragé indirectement.
Alors, Alain Poutou, tout à l'heure, le ministre Moussa Kalema soutenait qu'il y avait suffisamment de volonté politique pour que les choses changent, mais il y a certains observateurs qui pensent que cela n'est pas le cas parce que cette volonté politique n'apparaît pas dans le budget de l'État.
Bon, en fait, moi je crois qu'il y a aussi une incompréhension entre la vision du chef de l'État et le temps qui exécute. Parce que normalement, au niveau de chaque ministère, on devait avoir ce qu'on appelle le plan de travail annuel. Chaque ministère devait élaborer son PTA. Et au niveau des secteurs de l'État, au niveau des entreprises publiques, des services publics de l'État, et à leur niveau, devait élaborer d'abord un plan d'action et le soumettre à chaque agent au niveau d'exécution. Mais vous allez trouver qu'eux-mêmes d'abord, ils n'ont pas un plan de travail annuel, ils font des choses, bon, bien sûr qu'ils disent qu'ils ont la volonté de changer les choses, mais oui, on ne peut pas changer les choses verbalement. Il faut quand même qu'il y ait des paramètres référentiels que les gens doivent suivre.
Alors, on sait aussi qu'il y avait parmi les 5 chantiers du chef de l'État, il y avait le chantier emploi. À ce jour, Alain Poutou, de votre point de vue d'analyste, d'expert, que peut-on dire? Qu'est devenu ce chantier finalement?
Oui, mais vous savez, l'emploi, c'est le deuxième chantier du chef de l'État. Je vous ai dit tout à l'heure ici, le problème, c'est au niveau de la vision. Moi, j'ai l'impression que les gens qui sont censés exécuter ne comprennent pas exactement la vision du chef. Vous allez trouver dans notre pays, on ne doit pas être hypocrite, l'État n'a même pas la politique d'emploi. Donc, comment est-ce qu'on va lutter contre le chômage pendant que vous n'avez même pas la politique? Donc, c'est comme quelqu'un qui se réveille le matin, il n'a pas de planification, il n'a pas d'objectif, mais il s'attend à avoir un résultat. Vous devez savoir sur base de quoi. On devait d'abord commencer par élaborer une politique stratégique d'emploi qui révolte aussi l'insertion professionnelle des jeunes diplômés. Vous allez trouver que le taux du chômage est très élevé. Actuellement, le marché de l'emploi est plus dominé par les organisations internationales et arrive avec leur système. Mais l'État lui-même aussi qui devait quand même créer des emplois, créer des postes, devait mettre tout ça en place. Nous devons les fonctionnaires qui sont là, l'État est incapable d'arranger leurs conditions de vie. À plus forte raison, ceux-là qui sortent de l'université. Donc moi, je pense qu'ils devaient d'abord commencer par élaborer une politique stratégique d'emploi. Ils devaient réfléchir là-dessus, qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir dans ce chantier, en commençant d'abord par améliorer les conditions de travail des agents et leur aussi imposer les standards de résultats.
Alors, Alain Poutou, Jean Bosco Pouna a tout à l'heure évoqué le rôle des syndicats. Pensez-vous que les syndicats congolais jouent effectivement ce rôle?
Oui, en fait, les syndicats jouent ce rôle, mais les syndicats devaient d'abord s'asseoir avec l'État, établir ensemble les termes de référence. Que les syndicats disent à l'État ce que l'État doit faire pour les agents, et l'État aussi à son tour doit expliquer aux syndicats ce qu'il attend des agents. Mais vous réglez, vous ne lui donnez même pas le job description. La personne est là, vous ne lui dites pas ce que vous attendez de lui. Il y a certains qui viennent au travail, par exemple, à 12h, il y a des listes et des présences là qui sont à la réception, quelqu'un va signer 8h parce qu'il y a personne qui le suit de près. À partir de 14h, il prend ses affaires, il part. Donc, il faut qu'il y ait un terrain d'attente entre les syndicats et l'État. L'État devait fixer des objectifs aux agents. Les syndicats aussi devaient aussi dire à l'État exactement ce que l'État est censé faire à son tour aussi à ses agents à qui il a fixé les objectifs. Mais quand ils vivent comme ça, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de procédure. Bon, qu'est-ce que l'État doit faire à son niveau et qu'est-ce qu'aussi les agents doivent faire? Vous allez trouver que c'est vraiment une idée du désordre.
Merci Alain Poutou. À l'occasion toujours de la Journée internationale du travail célébrée le 1er mai, l'intersyndicale du Katanga s'est élevée contre l'exercice du petit métier par les expatriés au détriment des nationaux. Ngoy Kienge Kiansoni appelle ainsi le gouvernement à prendre ses responsabilités. Il a dit à l'occasion du défilé organisé mardi dernier à la grande place de la poste de Lubumbashi. On l'écoute au micro de Paulin Munanga Kisimba.
Vous allez trouver que l'emploi des travailleurs congolais est confisqué aujourd'hui par l'expatrié. Même dans des petits magasins, vous trouverez un ramasseur de papier. C'est un expatrié qu'on a emmené à la place des Congolais. Comment vous allez terminer le problème de chômage si vous acceptez n'importe quoi? Si vous livrez les cartes du travail n'importe comment? Donc c'est du désordre qui continueront. Le gouvernement doit prendre des mesures pour arrêter cette situation. Parce que la façon dont on délivre les cartes d'expatriés, ce n'est pas une bonne façon. Il y a les travailleurs qui souffrent dans les entreprises, mais on ne s'occupe pas d'eux. Mais on laisse les expatriés viennent faire n'importe quoi et gagner beaucoup plus que les travailleurs congolais. C'est une situation qui nous préoccupe, nous les syndicalistes.
Monsieur le ministre, comment vous réagissez face à cette situation?
Très bien. D'abord, je voudrais revenir un peu sur ce que l'expert a dit. Je voudrais d'abord indiquer très clairement qu'aujourd'hui, il existe bel et bien une politique nationale de l'emploi qui a été adoptée par le CNT, la 30e, je crois, session de CNT, mais qui était déjà passée au niveau de l'ECOREP, au niveau du gouvernement. Mais maintenant, il restait tout simplement l'adoption de cette politique nationale par les conseils des ministres. Et je crois que ce dossier se trouve sur la table, ça fera partie des dossiers de remise en reprise entre les ministres intérimaires et bien entendu les ministres, le premier ministre Matata. Et donc là, je voudrais vraiment leur assurer que la politique de l'emploi nationale de l'emploi a été élaborée. Et il existe maintenant des questions qu'on adopte pour qu'enfin que ça devienne véritablement exécutoire. Mais également l'autorité nationale pour l'emploi des jeunes. Et je voudrais revenir en disant que rapidement, il y a la volonté politique ferme, exprimée et bien saisie par certains animateurs, en fait, au niveau du gouvernement. C'est dans ce cadre-là aujourd'hui. Vous avez vu que jamais il n'existait pas un programme national de l'emploi des jeunes. Aujourd'hui, il existe un programme de l'emploi des jeunes. Et ça fait une semaine et demie que je venais de lancer le recensement, pour la première fois dans l'histoire de notre pays, le recensement des jeunes chômeurs en République démocratique du Congo. Avec les concours de nos partenaires, notamment le Vodacom et les autres. Donc il y a une volonté véritablement de faire avancer les choses. Je voudrais également indiquer très clairement qu'il y a la volonté politique. Parce que si hier l'ONEM était qu'un petit service du ministère du Travail, aujourd'hui l'ONEM est devenu un établissement public. Ça signifie qu'il y a une véritable volonté de réforme au niveau de l'État. Et j'ai même cas aussi pour l'inspection générale, qui n'était qu'en fait un petit service qui dépendait directement du cabinet du ministre, mais là il devient l'établissement, mais là il faut y trouver des animateurs dignes et bien formés moralement et bien. Là, voilà ce que je voulais dire par rapport à la volonté politique du gouvernement. Alors, par rapport à ce que je viens de dire, je partage en partie la préoccupation de notre intervenant de Lubumbashi et ça faisait déjà une grande préoccupation à notre niveau. J'ai personnellement déjà convoqué deux fois la commission et j'étais en train, malheureusement, là également je vous ai dit que j'ai pris les responsabilités au moment où c'est l'intérim, il y a beaucoup de contraintes, mais nous sommes Nous pensions qu'il fallait réqualifier la Commission nationale, effectivement, qui délivre la carte du travail. C'est vrai qu'il faut respecter la législation, parce que la législation est très claire, il y a des emplois qui sont réservés uniquement aux Congolais. Ça, c'est à tous les niveaux. Au niveau des provinces, on doit faire exécuter ça, au niveau provincial, comme au niveau local, comme au niveau national. Et je crois que là également, il y a la dernière réunion que le Premier ministre nous a dit avant de partir, avait eu avec les partenaires sociaux. Je crois qu'ils sont revenus autour de cette question-là. Ces questions que l'État essaie d'appliquer, effectivement, c'est la situation qui existe.
Merci.
Donc, ça, c'est à tous les niveaux, et également, il y va de la responsabilité des syndicats. Vous savez, j'ai observé une chose. Les syndicats aussi ne jouent pas véritablement leur rôle. Et très souvent, j'ai constaté que dans tous les ministères, comme dans toutes les sociétés, il n'y a que de l'agitation, il y a vraiment de la surenchère. Et en principe, comme l'autre l'a dit, on est consommé autour d'une table, qu'on cible véritablement le point saillant où on va avoir des réponses, très souvent on pose des problèmes en droite. Et d'une manière un peu pas orthodoxe, pas rationnelle. On ne sait pas par où commencer.
Merci.
Moi, je demande également à nos amis syndicalistes, véritablement, et aussi vraiment à jouer pleinement les rôles, à maîtriser exactement les rôles et les objectifs qui sont les leurs.
Merci, monsieur le ministre. Jean Bosco Kouna, il y a ce problème de la confiscation du secteur de l'emploi par les expatriés au détriment des nationaux.
Oui, je crois que la loi est claire en cette matière. Le petit commerce, en réalité, ne doit pas être exercé par les expatriés. Et l'État, en tant que régulateur, il doit véritablement veiller pour protéger les travailleurs. Je reviens ici par rapport au propos du ministre. Il faut comprendre que le vrai problème des travailleurs, c'est le problème de rémunération. Il est vrai qu'on peut élaborer les plus belles théories du monde dans le domaine de l'emploi, mais lorsque vous clochardisez celui qui travaille, eh bien, on n'aura pas de résultat. Tout à l'heure, le ministre vient de parler de l'agitation, certes, mais lorsque le gouvernement, l'employeur, qui a dans ses prérogatives le soin de pouvoir payer aux agents les salaires qu'il faut, ne s'exécute pas, ne fait pas cela, eh bien, les travailleurs ne peuvent pas mourir, les syndicats doivent élever, donner de la voix pour interpeller l'employeur. Donc, nous faisons notre travail. Malheureusement, tous les accords que le gouvernement contracte avec les syndicats, ces accords ne sont pas respectés. Il faut savoir que les salaires qu'un seul président jusqu'à ce jour a donné un salaire aux agents et fonctionnaires de l'État, c'était le président Kazavubu. Et l'accord de Mboudi dont nous parlons, les barèmes de Mboudi dont nous parlons aujourd'hui, eh bien, c'est exactement les salaires que le président Kazavubu donnait aux agents et fonctionnaires de l'État. Aujourd'hui, si on revalorisait la fonction publique, l'administration publique, eh bien, vous verrez dans tous les secteurs, on va devoir booster et le travail peut permettre que notre pays puisse se développer. N'oubliez pas que c'est par le travail qu'on peut développer un pays. Si vous ne travaillez pas, eh bien, vous n'aurez absolument rien et nous allons continuer à recourir aux institutions de Bretton Woods qui viendront à notre rescousse, mais ces institutions ne viendront pas pour projeter le développement de la République démocratique du Congo. Donc, il y a un travail à faire et au niveau de l'État, bien sûr, au niveau des syndicats aussi, mais nous ne parlons pas non plus des travailleurs qui doivent faire leur travail en toute conscience.
Un mot, Jean-Bosco Kouna, sur les conditions des retraités, on n'en parle pas souvent.
Bon, la retraite, vous voyez déjà, lorsque nous n'avons pas une politique salariale, la politique de retraite également va en souffrir. Aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle la pension d'accompagnement. Au niveau, par exemple, de l'administration publique, eh bien, on accompagne presque l'État. Donc, à la fin, l'argent ne bénéficie presque de rien. C'est les deux tiers de son traitement d'activité. Le deux tiers du traitement d'activité, le salaire de l'agent de l'État, c'est combien? Officiellement, c'est 780 francs congolais, donc il ne dépasse pas encore 1000 francs. Là, je parle du traitement d'activité, sur base duquel on calcule la pension de la retraite. Vous comprenez? Donc, c'est un véritable drame. Mais lorsque vous prenez, par exemple, ceux qui relèvent les sous-contrats, vous allez vous rendre compte que, bon, la base, c'est la pension de participation, c'est-à-dire l'agent qui travaille, on prélève des cotisations sur son traitement, et cela est versé au niveau niveau de l'INSS, ce qui est une bonne chose. Alors, mais au niveau de l'agent des agents de l'État, nous, en tant que syndicat, nous avons proposé que nous puissions prochainement, dans la politique salariale, avoir ce qu'on appelle la pension de capitalisation. Nous avons proposé au gouvernement 5% du traitement d'activité au regard du barème sur lequel nous sommes tombés d'accord, de 159 000 francs congolais pour le huissier. Eh bien, si on arrivait à défalquer 5% de ce traitement d'activité, on pourra constituer un capital. Et c'est ce capital qui peut permettre que l'agent qui termine sa carrière, qui va en retraite, qu'il puisse quand même, qu'il n'aille pas à la mort, mais qu'il puisse continuer à vivre.
À l'occasion de la Journée internationale du travail, les jeunes regroupés dans une association dénommée Front commun contre le chômage au Congo se sont retrouvés le même mardi au carrefour des jeunes dans la commune de Kalamu pour une journée de réflexion pour leur cause. Cette nouvelle association réclame au secrétaire général des Nations Unies d'instaurer une journée internationale des chômeurs le 31 mai de chaque année, car les chômeurs sont plus nombreux au monde que les travailleurs. Son président, Papi Mbumba, s'est exprimé au micro de Richard Junior Kamonga.
Aujourd'hui, c'est une journée internationale du travail dont les travailleurs sont en train de fêter. Or, vous savez que la population, dans son ensemble, je pourrais dire, plus de 65% de la population sont des chômeurs. Mais ceux qui sont en train de fêter de l'autre côté, c'est une minorité. Mais nous aussi, en tant que chômeurs, nous sommes dit, réfléchissons sur notre propre cause. Qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir du chômage si élevé dans notre pays? Le chômeur est-il responsable dans ça ou les autorités sont responsables dans ça? Voilà pourquoi nous avons estimé d'animer cette journée de réflexion pour qu'enfin, les parents et d'autres, dégager de plus de solutions, puisque nous ne sommes pas des bandits, nous ne sommes pas un groupe de voyous, mais nous voulons contribuer à l'évolution de ce pays. Le chômeur, c'est quelqu'un qui a étudié, c'est un intellectuel. Donc, nous avons le plein droit aussi de réfléchir aujourd'hui. Vous savez, il y a tant de journées internationales dans le monde entier. Le secrétaire général des Nations Unies, via le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, nous lui demandons qu'on puisse insérer une journée internationale des chômeurs.
Alain Poutou, brève réaction sur la proposition d'une journée internationale des chômeurs et vous répondez aussi à la question de savoir ce qu'il faut pour améliorer les conditions socio-professionnelles des travailleurs congolais.
Merci beaucoup. Il y a l'ami de Lubumbashi qui a parlé sur les postes qui sont occupés par des expatriés. Normalement, l'État aussi, à son niveau, devait avoir la liste exacte des employeurs en RDC. Et dans un des pays de l'Afrique, des restes que moi j'ai fréquenté, il y a un système tel que quand une ONG arrive, ou soit une entreprise vient de s'installer, l'État lui impose un quota pour les postes des réseaux nationaux. Mais dans notre pays, tout est dans la législation du travail, mais non appliqué. L'État aussi, à son niveau, il a une grande négligence, ou faiblesse plutôt au niveau des sujets. En principe, le ministère du Travail devrait passer chaque fin du mois pour se rassurer si les quotas imposés aux entreprises sont respectés. Mais souvent, le temps ne passe pas, on ne connaît pas exactement, il y a des situations qui se produisent que l'État ne maîtrise même pas.
Alors, si on fait la journée mondiale des
chômeurs, moi je pense qu'on ne doit plus pas parler de journée mondiale du chômage, mais plutôt chercher des solutions sur comment réduire le chômage. Avoir des journées, c'est beau, mais ils sont là parce que c'est leur anniversaire, ils sont là, ils se promènent, mais c'est pas ça la solution. Je pense que ce qui est important, c'est de trouver d'abord des solutions sur comment réduire d'abord le taux de chômage en mettant sur pied des stratégies. Puis plus, on doit encourager l'entrepreneuriat. C'est dans l'insertion professionnelle des jeunes diplômés, on doit plus voir aussi l'entrepreneuriat. Parce que si aujourd'hui, l'État arrivait à créer par année 5000 nouveaux, ce qu'on appelle dans d'autres pays le small business. Vous allez voir dans chaque petite entreprise qui sera créée, elle aura aussi besoin moins de 5 personnes. Quand vous faites 5 000, soit 5, vous allez voir que dans une année, on peut créer 25 000 emplois. Ça, c'est souvent des choses que moi, j'ai dit que c'est un secteur un peu sensible, qu'on doit plus chercher les stratégies techniques, de trop s'arrêter dans des histoires, des réunions, des paroles. Non, il faut plutôt réfléchir concrètement, chercher un peu à associer des gens ayant des compétences techniques dans des domaines qui vous donnent un peu des orientations.
Alors,
dans l'amélioration des conditions
professionnelles
des agents de l'État, moi, je pense que tout d'abord doit commencer par le mécanisme de canalisation des recettes. Vous allez trouver que ce ne sont pas tous les agents de l'État qui sont pauvres. Moi, je doute. Vous allez trouver un peu le cas, quand je dis que les recettes de l'État sont mal canalisées, parce que si d'abord on pouvait bien canaliser les recettes, je pense que tout le monde va se retrouver. Et vous allez trouver dans quelques secteurs où il y a une structure financière, ces gens-là se retrouvent. Vous arrivez, par exemple, dans des maisons communales. vous payez l'argent pour l'acte de naissance ou bien pour un document. Non, vous ne donnez même pas les reçus. Si vous trouvez que ce que vous venez de donner ici ne sera même pas comptabilisé dans les registres, il ne sera pas mettre ça dans la poche.
Merci Alain
Poutou. Par exemple.
Merci Alain Poutou. Monsieur le ministre, il me reste au moins de 4 minutes pour terminer l'émission. Il faut déjà conclure. Que faut-il pour améliorer les conditions socio-professionnelles? Vous avez déjà cité la volonté politique, vous avez déjà cité le fait de mettre fin à l'impunité. Monsieur le ministre, en guise de conclusion, que faut-il de plus?
Alors, je vous ai dit qu'on ne peut pas consacrer une journée au chômage, parce que le chômage est une très mauvaise chose. Donc, on ne peut pas sacraliser ça. Moi, je crois que je comprends les jeunes sur le désespoir, mais ils doivent vraiment s'armer de courage et continuer à espérer. Alors, pour conclure, je vous ai dit qu'effectivement, nous devons tous vraiment faire des sacrifices. Nous devons faire des sacrifices et appliquer la justice sociale pour arriver effectivement à remettre les choses en place et à améliorer les conditions de travail. Il faudra que les travailleurs également prennent conscience qu'ils doivent travailler. Parce que tant qu'on ne produira pas, il sera difficile d'améliorer les conditions de tout le monde. Donc nous devons tous remettre au travail, tous faire des sacrifices, mais nous devons également nous surveiller mutuellement pour que effectivement la production soit canalisée comme l'a dit tout à l'heure l'intervenant de tout à l'heure.
Monsieur le ministre Jean Bosco Pouna, que faut-il pour améliorer finalement les conditions socio-professionnelles des travailleurs?
Oui, tout en épousant ce qui a été dit, ben, j'ajoute, il faut absolument respecter la loi. Je rappelle l'article 58 de notre Constitution, et bien cet article parle de la justice distributive. Il faudrait absolument que l'État puisse répartir équitablement les revenus nationaux à tous les travailleurs. Aujourd'hui, il se remarque que 90% des richesses nationales sont partagées entre le personnel politique, les députés, etc. Et c'est 10% qui reviennent aux travailleurs, ce qui n'est pas juste. Je crois que si l'on appliquait la Constitution, la loi, on appliquait les différents statuts qui régissent les différents secteurs, les travailleurs pourront se retrouver. Avec une volonté politique bien dégagée, bien définie, nous pensons que les travailleurs, l'agent de l'État, peut arriver à se retrouver.
Alain Poutou, il faut respecter la loi, la justice distributive. Que faut-il d'après vous de plus pour améliorer ces conditions?
Pour moi, la chose la plus importante, d'abord, l'État devait chercher un peu à s'asseoir avec les syndicats qui établissent un peu les objectifs ensemble. L'État doit dire aux syndicats c'est qu'il attend effectivement des agents en leur faisant aussi des propositions. C'est-à-dire, vous allez voir ce qu'il faut faire à ce niveau, vous imposez aux gens un standard d'objectifs à atteindre, et d'un côté aussi, vous cherchez quand même à faire un sacrifice pour arranger rapidement d'abord les conditions de travail, même pour les deux ou trois premiers mois, afin aussi de les observer. Si les deux premiers mois-là, ils ne font pas un effort, à ce moment-là, l'État dira d'accord, moi j'ai essayé de faire un standard, je ne vois rien de votre côté. Et puis aussi, il faut aussi imposer aux gens le système là de rendre compte. Vous allez trouver, il y a certains agents de l'État, ils n'ont pas de fiches techniques, ils n'élaborent pas des rapports, donc les gens travaillent comme s'il n'y a rien. On n'a pas aussi des résultats concrets sur lesquels il faut évaluer les agents. C'est aussi là où il y a un problème. On devait voir un peu ce niveau-là, leur exiger de faire les rapports régulièrement et aussi encourager le système de primes. À ceux-là qui travaillent normalement, il faut leur donner aussi des primes. Et puis, les gens là eux-mêmes qui sont comme des mandataires, les chefs de service, devaient aussi développer l'esprit d'entrepreneuriat. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire aussi en attendant pour créer des activités génératrices de revenus? C'est là que j'ai dit qu'ils doivent aussi faire preuve de l'esprit de la créativité. Au cas où il y a toujours des arriérés de salaire, mais au moins, les agents à leur niveau se retrouvent. Comme l'a dit le ministre, c'est un travail normalement. À chaque niveau, chacun doit aussi prendre ses responsabilités.
Merci Alain Poutou. C'est par vous que nous terminons cette émission. Je rappelle que vous êtes expert en ressources humaines, spécialiste en insertion professionnelle des jeunes diplômés. Merci à M. le ministre intérimaire de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Moussa Kalima, et merci à Jean Bosco Pouna, secrétaire général du syndicat des écoles conventionnées catholiques et porte-parole adjoint des syndicats indépendants de l'administration publique. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Merci de votre attention. Au revoir. I'm going to go to the next one.